Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Une nuit de violence urbaine à Alençon, dans un petit quartier sensible de la ville. Dizaines de voitures ont été incendiées, les pompiers caillassés, les policiers attaqués aux mortiers d'artifice et l'interpellation de deux personnes pour trafic de stupéfiants qui, semble-t-il, a provoqué cette flambée de violence. Les habitants sont accablés par l'insécurité et les règlements de compte. On entendra leurs témoignages. La question de la vidéosurveillance, toujours au cœur du débat politique. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a rappelé la volonté d'installer des caméras partout où cela est nécessaire et sans faire d'idéologie. On sait qu'un bras de fer oppose le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à certaines municipalités, notamment écologistes. Ce n'est pas le cas à Alençon, en tout cas où plus de 60 caméras sont déjà installées dans les rues. Autre ville sous tension, Angoulême, où la municipalité tente d'endiguer les bagarres entre bandes rivales. Les interpellations s'enchaînent depuis la rentrée scolaire avec de nombreux mineurs impliqués. On sera sur place avec notre correspondant. Les chiffres du chômage, toujours à la baisse, moins 5,5% au troisième trimestre, avec une amélioration notamment chez les jeunes de moins de 25 ans. Et puis la parité en entreprise, une proposition de la loi République en marche arrive au Sénat. Elle propose d'instaurer un quota de représentation des femmes parmi les cadres dirigeants et les instances dirigeantes des entreprises de plus de 1000 salariés. L'objectif, au moins 30% de femmes en 2027 et 40% en 2030, sous peine de pénalité financière. Et puis un mot des TGV, de la grève à la SNCF. Les syndicats lèvent l'appel à la grève des conducteurs le week-end prochain. Un petit mot de politique, on entendra l'attaque frontale d'Éric Zemmour contre Marine Le Pen. Il estime qu'elle est une femme de gauche. Les déplacements de celui qui n'est toujours pas candidat commencent à susciter des manifestations de protestation dans les villes qu'il visite. On rejoindra notre envoyé spécial Gauthier Lebret. Voilà pour les grands thèmes de l'actualité ce soir. On en débat avec Jean-Claude Dacier qui nous a rejoint. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Consultant CNews, nous sommes avec Coralie Dubas. Bonsoir.
Bonsoir.
Député La République En Marche de l'Hérault, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Nous sommes avec Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Et, bonsoir. Et Karim Zeravi, consultant CNews. Bonsoir. On va commencer tout de suite par Alençon. La situation après cette nuit de violence urbaine. On fait le point tout de suite avec Marc Pope, Jean-Michel Decazes et Michaël Chailloux.
Au petit matin, les ouvriers d'Alençon sont à pied d'œuvre pour déblayer les débris. Les carcasses de voitures calcinées sont évacuées une à une. Certaines sont encore fumantes. La veille, vers 23h, les premiers tirs de mortiers d'artifice retentissent dans le quartier de Persaigne. 13 véhicules sont incendiés et les pompiers sont victimes de jets de pierre. Les habitants sont sous le choc.
Particulièrement, je vis très mal, donc voilà. C'est pas facile de vivre dans un milieu où est-ce que il y a du trafic de drogue.
Ça fait plus de 60 ans que j'habite là, c'est la première fois que je vois ça comme ça. Et le bordel, les rodéos, tout ça, ça arrête pas. On peut rien faire, hein. C'est pas à nous de faire quelque chose.
Hein. C'est à qui?
C'est aux magistrats. Ils font pas leur boulot, hein. Ils les punirent ces gens-là. Hein.
Selon les premiers éléments de l'enquête, les heurts ont débuté après l'arrestation dans la journée de deux personnes pour trafic de stupéfiants. Des événements récurrents selon le maire de la ville, Joaquim Pueyo, appelle à prendre de nouvelles dispositions pour endiguer le problème.
Les pouvoirs publics vont réfléchir pour renforcer effectivement la sécurité de nos territoires avec des postes supplémentaires. Madame la préfète, on a eu 3 postes pour la police, on renforce la police municipale.
Dans l'immédiat, des renforts spécialisés ont été mobilisés sur place. À court terme, la ville d'Alençon prévoit de renforcer les moyens des policiers.
Voilà pour ce reportage à Alençon. On va évidemment évoquer ces violences urbaines tout de suite dans Punchline. C'est parti pour ce soir.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque cette flambée de violence à Alençon, dans un quartier sensible de la ville. Tout de suite, on rejoint sur place nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Bonsoir Jeanne, on est au lendemain de cette nuit de violence. Dans quel état est le quartier? Et puis vous avez aussi rencontré certains des jeunes qui étaient sur place cette nuit, c'est bien cela?
Oui, Laurence, des jeunes qui nous expliquent ne pas avoir participé à ces affrontements, mais qui nous disent, eh bien, je cite, valider, cautionner, acquiescer ces méthodes. Alors, ces méthodes, quelles sont-elles? Eh bien, c'est tout simplement d'attirer les forces d'ordre, les pompiers, en calcinant certaines voitures, comme on en a devant nous, des voitures qu'on voit totalement brûlées ici, dans ce quartier, les attirer pour ensuite s'en prendre directement à eux. Vous l'avez entendu dans le sujet précédent, ce guet-apens, eh bien, il a été fait en réponse à l'interpellation qui a eu lieu hier. hier matin dans cette tour qui se trouve juste à côté de moi et dans laquelle eh bien, un trafic de drogue est effectué, a lieu ici. Alors ces jeunes, on a pu discuter avec eux évidemment à visage couvert car pour la plupart, eh bien, ils sont mineurs. Ces jeunes qui nous expliquent que pour eux, ces affrontements, eh bien, c'est la seule façon pour faire comprendre, je cite, aux policiers qui n'ont rien à faire ici dans ce quartier. Écoutez.
C'est un peu de leur faute aussi. C'est un peu de leur faute. Si... Bah, des forces de l'ordre. S'ils n'auraient pas cherché tout ça, il ne serait jamais arrivé ce qui s'est arrivé. Les bavures ont commencé de leur côté. Ils n'ont pas commencé d'ici. Ils cherchent la merde, à mon avis. Ça recommencera tant qu'ils n'auront pas compris. Qu'ils nous laissent tranquilles. Qu'ils arrêtent de venir ici, chercher des trucs, faire des bavures. Les gens qui ont commencé ça, ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Ça ne va pas s'en arrêter à là si les keufs, si la police, ils n'ont pas compris. Moi, je crains rien, moi. Rien du tout. Les gens d'ici, ils craignent rien. On est chez nous. On craint rien. Qu'est-ce qui peut se passer ce soir? Bah, ça peut péter encore plus que la veille, c'est tout.
Et Laurence, on a aussi discuté avec des habitants, des pères, des mères de famille qui nous expliquent eh bien, que ça les rassure que des CRS arrivent tout à l'heure ici dans ce quartier pour tenter d'apaiser ces tensions. Mais la plupart des habitants, eh bien, ce qu'ils demandent concrètement, c'est le retour d'un commissariat de proximité pour eh bien, permettre aux habitants de renouer le lien et le contact avec les forces de l'ordre.
Merci beaucoup pour ces explications, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Coralie Dubos, vous êtes députée de La République En Marche. On a l'illustration même de ce que l'on disait sur ces violences urbaines. Des jeunes qui ont un sentiment d'impunité, ils le disent là devant notre envoyé spécial, on risque rien, on est chez nous. Et les policiers qui sont régulièrement pris pour cible, c'est inacceptable.
En fait, c'est pire qu'un sentiment d'impunité parce que lorsqu'ils vous disent on risque rien, on est chez nous, c'est un sentiment de rupture et de séparation. Moi, c'est cela contre lequel on lutte au sein de La République En Marche, se séparer de la République en se disant ici c'est chez nous et c'est un territoire sur lequel ni les policiers ni les pompiers sont bienvenus, c'est inacceptable. En fait, on est partout en France. Et d'ailleurs, je voudrais saluer en premier lieu l'action des forces de l'ordre, à la fois cette nuit évidemment en protection du quartier, mais aussi en amont, parce que c'est quand même une riposte à un point de deal qui a été démantelé. Et moi, je trouve qu'il ne faut rien lâcher et je salue l'action de Gérald Darmanin et de tous les effectifs de police et de gendarmerie qui sont engagés dans la lutte contre les stupéfiants, même si nous savons que ça peut générer ce type de réaction. Il ne faut rien lâcher, il faut aller au bout, parce que si on en arrive là, avec ce sentiment finalement de zone qui fonctionne avec des lois autres que celles de la République... C'est parce qu'il y a eu un abandon quand même de ces quartiers pendant de trop nombreuses années. Là, il faut qu'on continue. On sait qu'il y a une période difficile à passer. Je voudrais aussi adresser mes salutations aux habitants, parce qu'on a entendu dans le reportage précédent des personnes qui habitent ces quartiers qui vous disent que c'est difficile pour nous de vivre dans ce milieu-là. Ça fait 60 ans que je suis ici, je vois la situation se dégrader. Je veux qu'il y ait de l'action publique. Et donc, moi, je voudrais saluer ces habitants et leur dire que pour eux, et nous savons qu'ils sont l'immense majorité des gens qui habitent ces endroits, pour eux, on ne lâchera rien. Il faut aller
au bout. Parce qu'eux subissent évidemment ces violences. Jean-Claude, l'interview qu'a fait Jeanne Cancard de ces jeunes est très, très, très symbolique de ce qui se passe.
Très tranquille.
Mineurs, ils sont mineurs. Ils disent qu'on ne risque pas grand-chose.
Ouais. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici?
Et pourquoi les policiers viennent au
fond? Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Enfin, on est chez nous, qui nous foutent la paix. Donc là, il y a du chemin quand même. Et je trouve qu'on est dans un engrenage. Je dirais sans fin, mais j'espère qu'il aura une fin, mais ça ne va pas être pour demain ou après-demain. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au fond? Les policiers, si j'ai bien compris, ont arrêté deux jeunes trafiquants, ils sont allés les chercher à leur domicile. Et puis leurs copains, 30 ou 35, ont dit « mais c'est inacceptable, comment ? On interpelle des trafiquants de drogue ?» Totalement inacceptable. Donc ils sont descendus, ils ont organisé.
Alors ils ont parlé de bavure à plusieurs reprises dans l'interview.
Ah oui, alors, enfin, moi je ne sais pas s'il y a eu des bavures, je n'étais pas sur place. Mais a priori, ils ont tendu une espèce de piège aux policiers, aux pompiers, en voyant. Alors là, pour une fois, il n'y avait pas la Kalachnikov, c'est bien, on est en progrès, mais il y avait quand même les tirs de mortier. Et puis, c'est là où je veux en venir, c'est que maintenant, je ne dis pas que le gouvernement est piégé, mais il va devoir, comme vous le disiez, Madame Dubos, faire preuve de la plus grande fermeté. Parce que quoi? Il a deux trafiquants de drogue. En garde à vue, en détention. Les manifestants, les jeunes, leurs copains appellent...
Pas les manifestants, avant.
Oui, non. Appellent à les libérer. Sinon, ils continuent ce soir et ils continueront jusqu'au bout avant que leurs camarades soient libérés.
Alors, il y aura des renforts policiers ce soir.
Oui, mais enfin, vous vous rendez compte. C'est-à-dire que menacer donc l'État français de manifester jusqu'à ce que les deux trafiquants de drogue soient libérés, sinon, c'est l'émeute urbaine. C'est un problème, c'est une problématique qui n'est pas facile pour le gouvernement, et j'espère comme vous qu'il va falloir tenir bon, parce qu'il faut tenir bon. Et essayer d'expliquer à ces jeunes gens que trafiquer la drogue, on va les laisser faire et que ces opérations-là vont se multiplier. Mais ce n'est pas du gâteau.
Karim Zerabi, c'est vraiment ce témoignage, moi je trouve très symbolique, de ces jeunes qui disaient que viennent faire les policiers au fond dans notre quartier.
Ah, une symbolique dramatique, parce qu'effectivement, il laisse entendre que ben, le rapport de force est possible.
Non seulement possible, mais normal.
C'est-à-dire qu'il est possible que nous puissions poursuivre nos exactions, notre volonté de ne pas faire entrer la police en circulant le territoire. C'est fou. Qu'on en soit là aujourd'hui, on se dit, mais la nature horreur du vide. Si la République, la police, ce qui fait que nous puissions vivre ensemble, ne prend plus place dans ces quartiers, il y en a d'autres qui la prennent la place. Et qui instaurent d'autres règles, leurs règles, qui ne sont pas les règles, effectivement, communes à tous. Donc, il faut absolument reprendre pied dans ces quartiers. Moi, je milite pour une sécurisation quotidienne et pérenne. J'en ai assez de voir, effectivement, qu'à chaque fois qu'on a un problème, on met des camions de CRS, ponctuellement, et ensuite, comme ils ne peuvent pas rester durablement, ils s'en vont et ils vont sur notre terrain d'exaction. En fait, on fait un tour de France des terrains d'exaction, on sécurise. Donc, je vois dans les quartiers nord de Marseille. Ouais. Donc, et il suffit qu'il y ait un peu des échafourés entre police et jeunes. Hop, camion de CRS. 48 heures. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont appelés ailleurs. Non, moi je vous dis, si on ne met pas des polices pérennes au quotidien pour sécuriser ces habitants qui méritent d'être sécurisés, qui sont des citoyens à respecter face à ces petits groupes de délinquants qui emmerdent tout le monde, qui empoisonnent la vie quotidienne et qui ne peuvent plus parler de manière impunie comme ça, en faisant presque la loi, le rapport de force. Il faut que la peur change de camp. Et ça, si on ne met pas les moyens de police, si on ne prend pas les décisions de justice qui vont bien, si on ne marche pas sur nos deux jambes républicaines, sécuriser, prévenir, dissuader, réprimer et puis sanctionner, eh bien, je suis désolé, ce cas de figure, il se généralisera. Et on l'aura encore. C'était les grandes villes jadis, maintenant c'est les villes moyennes, demain ce seront les villages. Si on laisse faire, il faut sortir de ce sentiment de laisser faire, agir vite, agir fort.
Alexandre Devecchio.
Leur slogan,
du Figaro.
On est chez nous, dit tout, je crois. Dit que nous ne sommes pas simplement dans une affaire de trafic de drogue et de business, mais que nous sommes dans une affaire de guerre de conquête, d'une certaine manière. Ils ont conquis un territoire, ils sont légitimes sur ce territoire, et l'État français n'est plus légitime. Donc il faut commencer par faire le bon diagnostic et dire que le travail de l'État, c'est pas seulement de mettre à mal le trafic de drogue, mais c'est de reconquérir les territoires perdus de la France, je dirais même pas de la République. Et pour ça, il faut mettre un arsenal législatif en place spécifique. Parce qu'il y a les voyous, mais il y a aussi leur environnement, il y a la complaisance d'une partie des familles, et donc il faut...
L'impuissance pratiquer. Peut-être aussi.
Comment ?
L'impuissance des familles.
Il y a l'impuissance d'une partie des familles, mais quand c'est des mineurs et quand il y a des gamins de 10 ans qui sont déjà dehors à n'importe quelle heure, il y a une défaillance qu'il faut réprimer. Il faut demander des comptes à ces familles-là. Au Danemark, on a mis en place une loi anti-ghetto. On a identifié ce qu'étaient les ghettos avec des critères sociaux, mais aussi des critères de nationalité. On a ensuite pratiqué le bannissement. Quand quelqu'un était condamné dans ces quartiers-là, il n'avait pas le droit d'y retourner. On peut s'interroger en France, doit-on continuer à donner des logements sociaux à des gens qui enfreignent la loi? Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à leur retirer leur logement? Je pense que tout ça doit être sur la table. Alors, et on ne doit pas se contenter de dire il faut mettre à mal les trafiquants,
Madame
parce
députée,
que c'est plus large que ça.
Qu'est-ce
c'est
que vous
un problème
répondez à
de désintégration, en fait.
Que la sécurisation de ces quartiers, elle commence par la lutte contre le trafic de drogue, parce que c'est ce qui alimente la délinquance, voire plus une certaine criminalité dans ces quartiers. Donc là-dessus, il ne faut pas être naïf. Lutter contre le trafic de drogue, c'est précisément reprendre pied dans ces quartiers pour l'État et mettre un terme à une économie souterraine, dangereuse et qui finance cette violence.
À ce propos, j'aimerais juste vous soumettre les propos du procureur de la République d'Alençon qui dit, à propos de ce qui s'est passé, une interpellation, ce n'est pas un démantèlement, ce n'est pas en extrayant un revendeur qu'on s'attaque en profondeur au trafic. Pour ça, il faudrait des enquêtes en profondeur de la police.
Oui,
ça choque les policiers, hein, je vous le cache pas.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est un peu gonflé de douter du travail des enquêteurs en France. Je peux vous dire, en plus, pour en avoir vu récemment et pour en voir régulièrement par mon mandat, que ce sont des personnes qui sont à pied d'œuvre en permanence au service de l'État. Et c'est finalement ça, entre eux, entre les gendarmes et les pompiers, de voir toutes ces personnes qui sont engagées pour l'État, pour les concitoyens et ceux qui n'ont strictement rien à faire, pardonnez-moi l'expression, et qui se mettent de telle façon en situation de menace vis-à-vis d'un État, il faut rester intraitable. Et moi, je le maintiens et je n'ai aucun doute sur le fait que ni le président de la République ni Gérald Darmanin ne cédera face à de telles menaces. Au contraire, il faudra poursuivre. J'entends aussi la demande qui est faite de réimplanter durablement dans les quartiers. Ça peut évidemment pas être les CRS puisque ce sont des compagnies qui ont vocation à être mobiles. Mais je crois que la reconquête aussi en relocalisant des gens, c'est ce qui a été fait avec la police de sécurité du quotidien dès le début du quinquennat. Et on a redéployé des hommes absolument partout sur le territoire. En mettant, on a quand même mis 15 000 hommes de plus, je regrette qu'il n'y en avait pas suffisamment dès le début du quinquennat et qu'il ait fallu en rajouter 15 000. Et s'il faut en rajouter, de toute façon, vous savez bien que personne ne lâchera sur ce sujet puisqu'il est primordial pour l'État français.
Moi, je les vois pas,
et à mon avis, un peu transpartisan, même si ce sont nous qui prioritairement avons remis 15 000 hommes. Sur la sanction des familles, je ne sais pas. C'est une vraie question qu'il faut ouvrir. Moi, je pense qu'on a besoin d'un vrai débat de fond sur la famille, sur l'éducation. Je prends l'éducation au sens large. Je ne suis pas en train de dire que l'éducation nationale ne fait pas son boulot. Je pense que...
Beaucoup
d'instituts et de profs font leur boulot et ils le voient essentiellement comme de l'instruction. Mais effectivement, il faut qu'on regarde la réalité en face. Il y a un problème d'éducation qui doit être pallié aujourd'hui. L'État va malheureusement devoir mettre les mains là-dedans. Normalement, c'est du domaine privé. Mais il va falloir mettre les mains là-dedans parce que c'est pas normal d'en arriver à ce niveau-là, à la fois de violence et de comportement. Il n'y a plus de civilité, de savoir-être dans notre société. Ça n'est pas possible. Et ça pose même des problèmes après quand on entre en entreprise, alors que ce sont des gens qui s'insèrent. Donc, de A à Z, de le début de la chaîne, il va falloir regarder. Mais je ne suis pas certaine que ce soit en retirant un logement à une famille qu'on lui permette de mieux éduquer et de mieux s'intégrer dans la société.
Un tout petit mot, Jean-Claude, rapidement.
Je ne sais pas comment va évoluer la situation à Alençon ce soir et dans les jours qui viennent. Il me semble tout de même qu'il y a un risque politique. C'est que les banlieues, ou une partie des banlieues, une partie des 80 ou 95 zones déclarées précaires, dangereuses, et j'en passe, s'enflamme. Et je pense que, effectivement, le gouvernement y est probablement sensible. Oui, et je le souhaite comme vous, à la sévérité, parce que sinon on va tout perdre. Ouais. Mais en même temps, il ne faut pas se dissimuler qu'il y a une élection bientôt et qu'il y a un risque politique de voir s'enflammer les banlieues.
Alors, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On a évoqué la situation à Alençon. On reviendra sur ce qui s'est passé à la Duchère, où il y avait des tirs d'armes automatiques sur les policiers. Et puis aussi Angoulême, une petite ville où le quotidien des habitants est absolument rythmé par les rixes entre bandes de jeunes. Tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Coralie Dupost, députée de La République En Marche, Jean-Claude Dacier, Karim Zerbi et Alexandre Devecchio du Figaro. On a évoqué Alençon, on va parler de Lyon et du quartier de la Duchère où les policiers se sont fait tirer dessus il y a quelques jours. Mais aussi Angoulême, petite ville par exemple, où le quotidien des riverains est littéralement miné par les rixes entre jeunes. Ça dure depuis des mois et personne n'arrive à y mettre un terme. Écoutez ces explications de Jérôme Rampenou et Kinson.
Les rues d'Angoulême sont régulièrement en proie à des rixes entre groupes de jeunes âgés entre 12 et 16 ans. Ils se défient sur les réseaux sociaux, selon Sébastien Seguin, syndicat Alliance Police Angoulême.
Ils sont arrogants, ils sont véhéments, il n'y a plus de respect, même pour l'uniforme, la peur du policier ou du gendarme n'existe plus.
Pour le maire d'hiver droite de Soyaux, François Nebout, c'est un problème de prise en charge.
Ces phénomènes s'aggravent et je pense qu'on a un véritable problème de prise en charge de ces petits délinquants qui sont identifiés, qui sont souvent, après chaque acte de délinquance, retrouvés, relâchés aussitôt et qui recommencent le lendemain.
Depuis le début de l'année, 369 procédures anti-stup ont été engagées. Magali Debatz, préfète de Charente, prône la pédagogie.
Au-delà de l'approche sécuritaire, ce qui est important également, c'est d'avoir une approche plus sociale. On fait du périscolaire, on fait de la médiation scolaire, on fait du soutien à la parentalité. Toutes ces actions sont absolument indispensables.
Les rivalités entre quartiers sont difficiles à éteindre. Ces derniers jours, 9 jeunes de 12 à 17 ans ont été placés en garde à vue pour des faits d'extorsion avec armes contre un adolescent de 16 ans.
Voilà, des jeunes de 12 à 17 ans, Jean-Claude Dacier, et une ville pareille. On parle d'Angoulême, on parle d'Alençon, on ne parle pas de Marseille, on ne parle pas de Seine-Saint-Denis. Hein, on parle de petites villes.
Il faut essayer,
moyenne ville,
par des actions de pédagogie, des actions sociales, de parler à la famille, essayer de leur faire reprendre le bon chemin. Mais honnêtement, je suis assez pessimiste. Ils sont tous âgés. Ce sont certes des mineurs, mais des mineurs qui ressemblent à des majeurs. Ils utilisent maintenant des armes à feu pour obtenir satisfaction, se livrent à des batailles qui n'ont plus aucun sens entre quartiers. Encore une fois, évidemment, c'est facile de réclamer la fermeté et le durcissement des sanctions, mais je crois très honnêtement qu'au stade où nous en sommes arrivés ici et hélas dans de nombreux endroits en France, s'il n'y a pas une claire politique de fermeté mise en œuvre par le garde des Sceaux et par la justice dans son ensemble, on n'y arrivera plus. Je crains que ce soit trop tard. Je voudrais de tout cœur me tromper. Je crains, hélas, d'être dans la vérité et que s'il n'y a pas l'exemplarité de sanctions nécessaires au stade où ils en sont arrivés, on n'en sortira pas. C'est mon point de vue.
Alors, comment s'occuper de la délinquance des mineurs ? Explication du commissaire David Lebars, qui était mon invité ce matin.
Ce genre de fait était assez courant dans des quartiers dits difficiles, ceux dans lesquels j'ai travaillé notamment. On peut citer la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône. L'exemple d'Alençon, c'est la démonstration que le trafic s'est répandu en France, y compris dans des petites villes, que les méthodes des trafiquants se sont répandues, que les traquenards se répandent, que les agressions pompiers-policiers se répandent. Et on est sur un problème d'une délinquance, d'une frange de délinquance, qui est souvent d'ailleurs, pour les violences urbaines, celle des mineurs. Et c'est un des sujets de sécurité importants, c'est cette délinquance des mineurs qu'on n'arrive pas à juguler.
Coralie Dubos, vous êtes députée de La République En Marche. La réponse de la justice par rapport aux mineurs, elle reste encore assez faible. Vous avez mis en place un certain nombre de dispositions, notamment le fait que cette réponse va s'articuler en deux temps. Le premier temps, on signifie la sanction, et après, on la met en œuvre. Mais il se passe des semaines entre les deux. Comment un mineur peut-il comprendre que la sanction, elle va s'articuler en deux temps ?
Alors, ce qui a changé, et je pense que c'est important, et c'est là où le garde des Sceaux voulait justement durcir la politique pénale, notamment à l'endroit de la délinquance mineure, c'est cette possibilité et cette facilitation de la comparution immédiate et du traitement très rapide, du traitement de la situation. Parce qu'avant, vous pouviez avoir, entre les faits, le moment où vous êtes attrapé et le moment où vous êtes jugé en procédure, vous pouviez avoir plusieurs mois, voire une année qui passait. Et alors là, quand vous avez 14 ans et que vous passez à 15 ou 16 ans, vous imaginez ce qui peut se passer au milieu. Donc déjà, d'arriver sur une immédiateté, c'est tout de suite marquer le coup et tout de suite montrer que l'État réagit, l'État est présent, l'État réagit. Comme le disait la préfète, la solution, elle doit venir de plusieurs endroits. Il faut évidemment une réponse immédiate de l'État, évidemment une politique pénale très présente. Et puis après, ils sont quand même très jeunes, il faut tenter, à un moment donné, par différentes solutions. Alors, je ne sais pas s'il faut parler d'activité périscolaire. Je pense qu'activité périscolaire, ce n'est pas franchement le meilleur des termes. Voilà. Mais il faut effectivement aussi aller pallier ce que nous disions juste avant, un défaut de projection quand même dans l'avenir, parce qu'il semble manifestement qu'il y ait une incapacité à se projeter dans l'avenir. Une capacité à s'imaginer autrement que dans cette situation de délinquant. Moi, je voudrais dire quand même aussi à ces jeunes. Vous avez, j'entends, entre 12 et 17 ans. Mais enfin, devenir un homme, devenir une femme, c'est pas ça. Devenir un homme, devenir une femme, affirmer une virilité, c'est pas aller agresser des gens. Affirmer une masculinité, c'est pas ça. La vie, elle est quand même pleine de possibles. Vous devez avoir des projets à votre âge, vous devez avoir des rêves, vous devez avoir envie de vous battre pour votre avenir, pas contre quelqu'un. Vous passez à côté de l'essentiel de la vie alors que c'est le moment où vous êtes en train de vous déterminer. Donc moi, je voudrais aussi que collectivement, on invite ces jeunes à réfléchir parce qu'ils ont une mauvaise idée de ce que c'est qu'être un homme.
Mmh, absolument. Juste un mot, parce qu'on sait que vous avez subi une agression il y a quelques jours, violente, en plein cœur de Paris, brutale, pour voler. Comment est-ce que vous allez ? Et est-ce qu'encore une fois, les auteurs des faits qui vous ont touché ont été interpellés ?
Alors, je vais mieux, je vous remercie, Laurence. Je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Grâce notamment au suivi médical et policier tel qu'il existe en France. Je trouve qu'on a un système de grande qualité. Je sais que les enquêteurs travaillent. Je leur fais confiance et j'espère qu'ils réussiront évidemment à aller au bout de cette enquête. Et j'aurai des questions à poser à mes agresseurs s'ils sont trouvés.
C'est en votre qualité de député que vous avez été agressé ou pas du tout ?
Non, je ne pense pas que ce soit une agression politique. Je pense que c'est une agression
Gratuite, comme pour...
Oui, comme ça arrive à beaucoup de Français, fortuite. Dû probablement à... J'imagine, je ne peux qu'imaginer, je n'ai pas eu de dialogue avec mes agresseurs. J'imagine que c'est pour des causes sociales, de grande précarisation, avec du fantasme sur ce qu'on peut imaginer d'une bourgeoisie à la française. Et je pense qu'ils ont tort, je pense qu'ils se trompent. Moi, j'ai travaillé pour payer mes études, en grande partie. Là où je suis aujourd'hui, je le dois à mon labeur, à mon sérieux, à mon engagement. Et à beaucoup de chance dans les rencontres que j'ai faites dans ma vie et la confiance qu'on m'a accordée. Et la vie, c'est fait de ça. La vie, c'est fait de travail, c'est fait de sérieux, c'est fait de détermination. Et c'est aussi la capacité à répondre oui quand quelqu'un d'adulte ou de plus avancé dans la vie que vous, vous tend la main. Et on ne progresse pas dans la vie en passant son temps à détruire. Il faut cesser avec ces images qui sont parfois colportées par les réseaux sociaux, parfois colportées par certains films ou séries. Cela est faux.
Merci. On referme la parenthèse personnelle. Karim Zahali, sur la réponse sur les mineurs.
Oui, je crois qu'on a un double problème qui est structurant et qui n'est pas réglé à la fin de ce quinquennat et qui ne l'a pas été par les quinquennats précédents. Un, c'est la délinquance des mineurs. Nous avons 50 centres d'éducation renforcés dans notre pays. Il y a 99 départements en métropole. Il faudrait à minima un centre par département parce qu'on voit bien que la délinquance des mineurs ne touche plus que les grandes villes. Elle touche les villes moyennes, et des petites villes aussi. Alençon, 27 000 habitants. Cavaillon, dont nous parlions il n'y a pas si longtemps, 24 000 habitants. Donc, on a besoin d'une réponse immédiate, pénale, donc pour ces mineurs. Et puis, le deuxième sujet, c'est les multirécidivistes. 5% des multirécidivistes, c'est plus de la moitié des actes de délinquance. Donc, c'est pas normal.
5%, la moitié des actes.
Oui,
il faut bien
c'est pas normal.
Des chiffres.
5%, c'est 50% des actes de délinquance. Il y a cette forme de, je dirais, de peur qui n'existe pas pour les multirécidivistes. Je commets un acte de délinquance. Et c'est David Lebars qui nous le disait. Parfois, il a vu les gens 30, 40 fois récidiver. Ça veut dire que notre réponse n'est pas suffisamment forte et convaincante. Donc, si on n'apporte pas une réponse à cette délinquance des mineurs, on a une spirale qui peut se mettre en place du côté de ceux qui sont influencés par des petits caïds. Donc, il faut prendre des mesures d'éloignement, des mesures de redressement éducatif, mais fortes, avec des centres fermés, dignes de ce nom, les éloigner des quartiers, donc qu'ils ne les gangrènent plus et que les gamins ne puissent pas vivre sous le joug de ces caïds. Et deuxièmement, les multirécidivistes, une réponse plus forte, plus ferme de la part de la justice. Mais les fonctionnaires de police, croyez-moi, font leur travail dans des conditions extrêmement difficiles. Et moi, je vais vous dire, on n'a pas énormément de bavures dans notre pays, Dieu merci, parce que le code des déontologies
et
est respecté.
Et quand il y en a, ils sont sanctionnés, oui. À raison.
Bien sûr, sanctionnés à raison, mais il faut quand même se dire que, vous vous rendez compte, les guet-apens dans lesquels les fonctionnaires de police se trouvent souvent, dans d'autres pays, ils sortiraient leurs armes pour moins que ça. Donc moi, je veux saluer aussi ce sang-froid, ce courage, ce professionnalisme de la part de nos forces d'ordre. On ne le dit pas assez, donc ils font face quand même à des risques quotidiens et qui maîtrisent la situation. Donc il faut les aider, il faut les accompagner, il faut leur permettre de se former. Et encore une fois, moi je ne lâcherai pas, il faut plus d'effectifs pour prévenir et dissuader. Si on doit réprimer, il faut réprimer, mais en amont, on a la prévention et la dissuasion par la présence humaine. Du bleu dans nos villes, du bleu dans nos quartiers. Les habitants des quartiers populaires y ont droit comme les autres.
Et le réclame. Alexandre Devecchio, sur les mineurs.
Moi, oui, plus d'effectifs, je suis d'accord. Je pense que la droite a commis une erreur, je le répète à chaque fois, avec la réforme générale des politiques publiques qui a consisté à supprimer un fonctionnaire sur deux, mais sans sélectionner. Il y avait sans doute des fonctionnaires à supprimer dans la bureaucratie, mais pas dans la police, dans la santé, dans l'armée et ailleurs. Donc ça a été dans la justice, ça a été une erreur. Et voilà, revenons à la justice. Il y a sans doute un problème d'effectifs, mais il y a aussi sans doute un problème d'idéologie, il y a un problème de non-application des peines, parce qu'en réalité, la politique pénale est assez sévère. Les peines prononcées sont sévères. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas exécutées. Donc il va falloir se donner les moyens de les exécuter. Pour les mineurs, où là, il y a un peu plus de laxisme, il y a vraiment un changement idéologique. On n'a pas affaire peut-être aux mêmes mineurs qu'autrefois. Donc il faut avoir des sanctions différentes. Il faut qu'ils soient ces sanctions. Là encore, même si ce n'est pas un enfermement en prison tout de suite, il faut que ce soit appliqué. Si c'est c'est un centre éducatif fermé, eh bien, il faut qu'ils y aillent. Si c'est des travaux d'intérêt généraux, il faut que ce soit appliqué. Et moi, j'insiste sur la responsabilité parentale, tout de même. Tout à l'heure, on a parlé de ces territoires, de ces zones conquises. Appelons un chat un chat. Si on veut les reprendre, il faut aussi que la peur change de camp, mais à l'intérieur de ces zones-là, et que certaines familles soient mises face à leurs responsabilités, et qu'elles opèrent elles-mêmes un contrôle social sur leurs enfants, sur leur voisinage. C'est comme ça que ça se passe aussi, et ça se passera que s'il y a une crainte d'être expulsé, une crainte d'avoir des soucis avec la justice. Donc c'est un énorme chantier, mais qui nécessite en premier lieu certes un arsenal législatif, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi une révolution culturelle. Je pense qu'il faut penser différemment.
Est-ce qu'on est capable de la faire, cette révolution? Alors Karim, et après Coralie.
Je pense que sur la question de la famille, il ne faut pas d'automaticité. Chaque cas est différent.
Bien sûr.
Donc, vous avez une maman qui élève ses enfants tout seul, admettons qu'elle en ait deux ou trois, ça va bien se passer pour deux gamins, il y en a un qui a 17 ans, il fait une tête et demie de plus qu'elle, vous allez aller chercher la maman et l'expulser, en faire une SDF, alors qu'elle se lève, elle travaille, elle a bien élevé deux enfants sur trois. Non, c'est celui qui a 17 ans qui a fait des conneries qu'il faut sanctionner fermement.
En France, ça n'existe pas, Karim, donc, ça n'existe pas l'automaticité des peines, et les juges sont pas du jour à expulser n'importe qui. Donc,
il y a quelques expulsions locatives.
Justement, c'est pour ça que je précise que la mesure qui consiste à dire toujours, tout de suite, il faut s'attaquer à la famille aux responsabilités parentales et à expulser ces familles de logements sociaux, ça n'est pas une réponse qu'il faut appliquer automatiquement. Chaque réponse est différente. En revanche, quand vous avez une famille avec des gamins de 10 ans qui sont à minuit dehors, qui cassent des voitures et qui ne sont pas éduqués, là, il y a une responsabilité parentale à pointer avec des mesures. Peut-être, on prend les allocations familiales, on ne les enlève pas. On les gère en éloignant l'enfant parce que la tutelle familiale n'est pas en mesure de l'éduquer. Il y a des mesures à inventer, mais encore une fois, il ne faut pas qu'elles soient automatiques, il faut faire du cas par cas. Et oui, il faut de la fermeté pour appeler les parents à leurs responsabilités. Mettre des enfants au monde implique des responsabilités. Ce message, il faut le faire passer, mais pas certainement en expulsant des gens de leurs logements sociaux pour en faire des SDF. Ça ne réglerait pas le problème, ça ne ferait que l'aggraver.
Caroline Dubost.
Oui, je suis plutôt sur la ligne de Karim. Je pense qu'effectivement, il faut à minima avoir un discours sur la parentalité. Et qu'est-ce que ça engage que d'être parent, qu'est-ce que ça implique, etc. Et sur l'autorité dans la parentalité, c'est nécessaire. C'est une bonne chose, l'autorité dans la parentalité. Il ne faut pas que les parents soient effrayés avec ça, bien au contraire.
Mais on refait le béaba, quoi.
Ouais, mais allons-y, s'il faut refaire le béaba, allons-y, faisons-le.
Mais c'est le travail de l'État.
Moi, je sais qu'à Montpellier, dans certains de nos quartiers populaires, il y a l'école des parents après l'école des enfants le soir, et ça marche bien. Donc, il n'y a pas qu'à Montpellier, à Lunel, je sais qu'ils ont mis en place aussi une action, et ça fonctionne. C'est-à-dire que des parents viennent, demandent conseils et les appliquent. Donc, si ça fonctionne, déployons, pourquoi pas, des maisons des parents, si ça peut aider, allons-y. Il faut mettre, évidemment, le paquet. Je ne suis pas favorable à la sanction collective parce que je crains qu'elle génère encore plus de difficultés, encore plus de violence et qu'elle soit vécue comme une escalade. En revanche, poser des outils pour réapprendre les fondamentaux s'ils ont été oubliés, pourquoi pas ? Oui, et puis vraiment, déconstruire, il va falloir quand même s'attaquer à déconstruire ce modèle de violence comme une façon de se réaliser dans la vie.
Il faut le dire,
vous êtes faible. Vous faites ça, vous êtes faible. Quand vous adoptez ce type de comportement dans la vie, vous allez en réalité vers la facilité. Ce n'est pas ce qui va vous rendre digne. Il faut aussi venir abîmer l'image.
Jean-Claude, un mot là-dessus.
Je souhaite que vous ayez raison, mais je pense qu'ils vous répondront que il vaut mieux faire du trafic de drogue et gagner quelques milliers d'euros tous les jours plutôt que d'aller bosser en usine. Mais enfin, on peut toujours rêver.
On a l'image de soi.
On peut toujours rêver.
Dans la glace.
Oui, on paye.
Attends, Jean-Claude, et après.
Non, mais un mot. Je trouve qu'on paye une politique qui n'est pas nouvelle. Vous n'êtes pas responsable, pas plus que le président actuel. Ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on se raconte des histoires et qui est au cœur notamment de la magistrature, pas seulement, mais les intellectuels ont dit leur mot aussi depuis des années, mais au cœur de la magistrature et au cœur de l'administration pénitentiaire, vous aviez une philosophie qui consistait à dire qu'au fond, les agresseurs sont des victimes, eux aussi. Il n'y a que des victimes dans ce pays, et que les agresseurs sont des victimes, victimes de la crise sociale, victimes des difficultés de tout genre qui peuvent s'abattre sur les familles, et que les mettre en prison ou les sanctionner d'une manière ou d'une autre, ça produirait des effets plus dommageables et plus risqués et plus dangereux que de les laisser là où ils étaient. Ça fait 30 ans qu'on laisse les choses se dégrader tout doucement, on a le résultat aujourd'hui. Refaire le terrain perdu, c'est possible, mais il va falloir une sacrée fermeté. Et un sacré courage politique.
Ce qui est vrai, c'est qu'en matière de doctrine, il faut avoir aucun tabou, il faut tout poser sur la table. Oui. Moi, j'ai occupé un poste de direction dans un groupe d'habitat social. Et j'avoue avoir été effaré à l'époque. Ça fait, allez, une dizaine d'années. J'espère que la mesure n'est plus en cours. J'ai été effaré de constater que lorsqu'il y avait une famille qui posait problème parce que des enfants délinquants, on la sortait de l'ensemble de logements sociaux pour lui trouver un lieu plus agréable, éloigné, type une maison réhabilitée, en se disant qu'on allait éloigner la famille. Je suis désolé de vous le dire, j'étais choqué à l'époque. Et je me disais, mais comment ? Moi, j'ai vécu dans un quartier. Et je considérais qu'il faut, au contraire, faire jouer les mécanismes de méritocratie républicaine. Quand une famille élève ses enfants dignement, c'est elle qu'il faut récompenser. Et il ne faut pas proposer, effectivement, une petite villa à ceux, effectivement, qui sont délinquants. J'ai été choqué. J'espère que cette forme de doctrine, d'idéologie, a changé, et que maintenant on a envie quand même, donc dans ces ensembles sociaux, de récompenser, de donner une prime à l'éducation, à la rigueur, à l'exigence, parce qu'encore une fois, élever ses enfants dans ces conditions-là, ça n'est pas facile. Oui. Donc il faut aussi reconnaître les parents qui le font, ils sont nombreux, remarquablement bien.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va parler un peu de politique, on va parler d'Éric Zemmour qui continue sa tournée avec un certain nombre de manifestations, et puis aussi de Marine Le Pen, ce qui dit de Marine. Là tout de suite.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Claude Dacier, Coralie Dubost, députée de La République En Marche, Alexandre Devecchio de Figaro, Karim Zerébi, consultant CNews. On va parler un peu de politique avec la tournée d'Éric Zemmour qui continue, une tournée de promotion de son livre, puisque pour l'instant, vous le savez, qu'il n'est pas encore candidat et d'ailleurs, c'est pas prêt pour tout de suite. Et on va voir avec vous, Gauthier Lebret, bonsoir, vous êtes notre envoyé spécial, que la tension augmente autour des meetings, enfin des réunions organisées par Éric Zemmour. C'est bien cela, Gauthier ?
Oui Laurence, il y a de plus en plus de tensions en marge des déplacements d'Éric Zemmour. Hier, 200 personnes étaient réunies à Biarritz devant la salle où Éric Zemmour a tenu son nouveau meeting. Et ce week-end, en Bretagne, où Éric Zemmour va faire deux nouveaux déplacements, l'un à Pleurtuis et l'autre à Nantes, des appels à la mobilisation ont été lancés. Au sujet de Marine Le Pen, qui jugeait en fin de semaine dernière qu'Éric Zemmour était misogyne, qu'il avait une sorte de mépris profond pour les femmes, eh bien, j'ai fait réagir à ces propos Éric Zemmour hier après son meeting. Et puisque la meilleure défense, c'est l'attaque, eh bien, Éric Zemmour ne mâche pas ses mots, je le cite. Pauvre Marine Le Pen, je la plains. C'est une femme de gauche en décalage complet avec son électorat. Sa réflexion est stupide. Éric Zemmour qui devrait attendre le mois de décembre pour se déclarer candidat. On pensait qu'il le ferait avant le 15 novembre. Mais hier, l'un de ses proches me confiait qu'il n'avait pas d'utilité à le faire avant décembre, que le public savait déjà qu'il était candidat, que ça intéressait seulement les journalistes. On peut donc attendre, me confiait ce proche.
Merci Gauthier Lebret et Florian Paume sur place dans les Landes à Magesque. On va juste écouter alors, il a fait référence à des phrases d'Éric Zemmour à propos de Marine Le Pen. On va écouter Éric Zemmour et puis je vous en parle dans un instant.
Pauvre Marine Le Pen, je la plains. Je la plains de devoir reprendre, de parler comme Marlène Schiappa, de parler comme la gauche, de parler comme les féministes. Je la plains de devoir reprendre des arguments, mais vous savez... J'avais été le premier à le dire et à le diagnostiquer. C'est une femme de gauche. Tous ses réflexes sont de gauche. Elle est en décalage avec son électorat. Elle dit que l'islam est différent de l'islamisme. 67% des Français pensent le contraire. Elle dit que le grand remplacement n'existe pas. 67% des Français pensent le contraire. Elle pense comme le tiers le plus à gauche du pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est son problème à elle, ce n'est pas le mien. Maintenant, elle essaye désespérément de m'accrocher comme la gauche. Elle parle comme la gauche, elle parle comme M. Montebourg, elle parle comme Mme Schiappa, elle parle comme M. Mélenchon. Voilà, elle essaye de m'agripper sur ma prétendue misogynie. Stupide réflexion, stupide analyse, stupide angle d'attaque.
Alors, Coralie Dubost, vous êtes députée de La République En Marche.
me dis que finalement, cette histoire de misogynie n'est pas tout à fait fausse. Pour moi, ils sont plutôt dans le même paquet, Marine Le Pen et Éric Zemmour, du mensonge, mais je n'aurais pas qualifié Marine Le Pen de stupide. Je trouve en revanche que lui, son attaque, qui est somme toute assez prétentieuse, je sais qu'il a une vie médiatique, mais il arrive dans la vie politique, commencer par injurier ses adversaires, c'est pas franchement une marque de respect, surtout quand on prétend aux plus hautes fonctions du pays. Après, sur le fond, je suis en total désaccord avec
Marine Le Pen n'est pas de gauche,
pour vous. Et de Marine Le Pen, peut-être qu'il fait aussi juste une crise de jalousie parce qu'aujourd'hui elle est avec Orban et il y était il y a environ un mois, et que donc ils ont en réalité exactement le même circuit, le même mode de fonctionnement, avec des vocabulaires différents, des incarnations différentes, mais à mon sens, aucun des deux n'est au niveau de la France.
Jean-Claude, on a un sondage Harris Interactive pour Challenge qui met Emmanuel Macron en tête, toujours avec 23%. Éric Zemmour en deuxième position à 17%. Marine Le Pen à 16%. Xavier Bertrand, 14%. Valérie Pécresse, 10%.
Et je vous en cite un autre qui est aussi de cet après-midi, qui donne un résultat exactement inverse. La seule stabilité,
inverse,
c'est
entre Marine Le Pen et Éric Zemmour.
Marine Le Pen et Zemmour, oui, Zemmour est troisième largement derrière et Marine Le Pen est largement devant. Et Macron est encore devant. Moi, je vais vous dire, ces sondages-là, je m'en tape, si j'ose dire, pour être un peu,
alors,
pour être un peu vulgaire.
Il y en avait une qui avait dit la bourse, rien à cirer. Vous, c'est les sondages, on s'en tape.
Non, mais franchement, on sait très bien que ça vaut pas un pet de lapin. Ça fait parler un peu, on parle tous, on est content. Ça fixe un peu les idées. Et puis, il va falloir attendre décembre ou janvier pour savoir exactement quel sera le rapport de force. Pour le moment, j'observe avec intérêt, surprise, mais avec intérêt, le discours d'Éric Zemmour qualifiant Marine Le Pen de tous les noms.
Gauchiste. Franchement, elle est en tout cas gauchiste.
Elle est nulle, elle n'a aucune chance de gagner, elle est en décalage avec son électorat.
Est-ce qu'elle est de gauche? Est-ce que certaines des idées qu'elle porte, la retraite à 60 ans, ce sont des idées de gauche? Voilà, c'est la question qui est posée.
Je pense qu'en économie, les décisions qu'elle préconisait, oui, sont de gauche. Et sont stupides, et sont nulles. Et je pense que Zemmour pensait ça il y a encore un an ou deux. Il a heureusement changé aujourd'hui.
Il pensait la même chose que Marine Le Pen.
Il suffit de lire son livre sur le suicide français. Je referme la parenthèse. On a quoi? On a Zemmour qui essaie de tuer Marine Le Pen. Parce qu'il a raison. Il y a une primaire au sein du Rassemblement National. À deux, c'est la catastrophe. À deux, c'est la certitude ou quasi-certitude que le candidat des Républicains sera deuxième et que c'est lui qui s'expliquera avec Macron probablement au deuxième tour. On n'en est pas là de toute façon, mais là, ça chauffe dur au sein même de l'Assemblée. Moi, je pensais qu'ils étaient non pas copains, mais enfin, on sait bien que qu'Éric Zemmour était très copain avec Jean-Marie Le Pen, qu'il a longuement fréquenté la famille Le Pen. L'entendre tenir un discours d'une telle violence à l'égard de Marine Le Pen, j'ai l'intuition qu'il a tort. Mais après tout, on verra bien les résultats.
On vient parler de la délinquance quand même en France. On dit qu'il faut restituer un certain niveau, etc., de débat public, de fermeté. Comment on peut prétendre restaurer l'autorité en France, être candidat aux plus hautes élections et avoir un comportement vis-à-vis de ses adversaires politiques de voyous? Ce sont des propos de voyous, ce sont pas du tout des propos qui sont éthiques et respectueux. Si véritablement il a de la prétention pour la France, qu'il se mette au minimum dans le comportement.
Et Alexandre Devecchio, sur ce
qu'il dit... Il faut toujours être précis dans la vie. Mais il n'a pas traité Marine Le Pen de stupide, il a dit que ses propos étaient stupides. Ensuite, ça me fait doucement rigoler que La République En Marche et d'autres parlent de violence des propos, qui ont parlé de lépreux à l'égard de certains courants politiques, de fascistes et de je ne sais quoi.
Ils ont traité Éric Zemmour de virus. Monsieur Borrello, pas vous.
On peut apprécier ou pas le vocabulaire d'Éric Zemmour, mais c'est un vocabulaire très largement partagé par la classe politique. La diabolisation de l'adversaire, la disqualification de l'adversaire n'est vraiment pas l'apanage d'Éric Zemmour. Moi ensuite, sur le fond, je pense qu'il attaque Marine Le Pen, pas sur le programme économique. Je pense que en réalité, Éric Zemmour, je suis d'accord avec Jean-Claude Zassier, a des points communs avec Marine Le Pen et il ferait bien de ne pas aller trop à droite quand même sur le plan économique. Mais là, il attaquait sur le politiquement correct et sur l'immigration. Je sais pas s'il a raison de faire ça, parce qu'à la fin, il aura quand même besoin des électeurs de Marine Le Pen, et je pense qu'Éric Zemmour a quand même un sérieux problème avec l'électorat féminin. Et que c'est pas la peine d'accentuer ce décalage. Donc stratégiquement, là, je suis pas sûr que sa stratégie soit la bonne. Après, les cris d'orfraie politiquement correct, là, je rejoins totalement Éric Zemmour, il y en a marre, les gens ne sont pas stupides, et voilà, le vocabulaire politique est ce qu'il est, c'est pas le premier à insulter son adversaire, et s'est fait copieusement insulter lui-même.
Alors, Karim Zerbi.
Moi, si j'en ai marre de quelque chose, c'est la campagne aura des pâquerettes. Ben oui. Je vous le dis franchement, c'est pas que le fait d'Éric Zemmour, c'est ces petites phrases-là, tous les jours. Là. La semaine dernière, c'était Éric et Marine se rapprochent, cette semaine, c'est Éric et Marine se déchirent. La semaine prochaine, c'est avec Éric et Marine s'insultent. Mais moi, je veux bien, mais ces épisodes-là, je ne sais pas s'ils intéressent les Français. Moi, je lis que des analyses de ceux qui analysent la société française en profondeur. On a le personnel soignant qui est en dépression aujourd'hui, qui est en souffrance. On a les fonctionnaires de police, on l'évoquait tout à l'heure, qui risquent leur vie tous les jours quand ils sortent. On a la justice qui est complètement dépourvue de moyens, par une absence de capacité à statuer. On a un pouvoir d'achat qui est en berne, chez les 10% de Français les plus faibles, avec des prix qui augmentent et des prix de première nécessité de la vie quotidienne, le carburant, l'électricité, les pâtes dans les supermarchés. Et qu'est-ce qu'on entend ? Chapa est imbécile, Marine Le Pen est stupide. Enfin, très franchement, il va falloir que Moïse atterrisse, quoi, je veux dire. Donc, il y a quand même des préoccupations chez nos compatriotes et des préoccupations de la vie quotidienne sur des sujets régaliens, mais aussi sur des sujets économiques et sociaux. Ils ne sont pas traités. Alors, moi, je veux bien qu'on
ça
soit
sera
hors sans sol.
Doute quand on sera en campagne.
Oui, mais réellement, qu'est-ce qu'ils font quand il fait ses meetings? Il fait quoi? C'est pas de la campagne, ça? Donc, moi, je sais pas si j'étais Éric Zemmour. Je ne le suis pas. Dieu merci. Donc, je suis pas son avocat et je le serai jamais. Non, mais si quelqu'un vient m'interroger sur Marine Le Pen, je répondrai sur le pouvoir d'achat des Français. Si vraiment j'ai envie de convaincre. Non, je trouve que c'est pitoyable. Je vous le dis comme je le pense. Ouais. J'espère qu'on va un peu augmenter le niveau en nous parlant des vraies préoccupations des Français, en faisant des vraies propositions, en dressant un dessin pour notre grand pays et beau pays. Parce que là, franchement, les campagnes de comptoir avec des candidats de comptoir, ça va deux minutes, mais à un moment donné, il y en a
marre. Si on élargit un tout petit peu le spectre et on regarde la photo politique de la France aujourd'hui, on a une autre étude du Figaro, Alexandre, de Vecchio, qui montre que la France, il y a beaucoup de Français qui sont plus à droite aujourd'hui qu'il n'y a ne serait-ce que 5 ans. Il y a 37% des Français qui se disent aujourd'hui à droite, ce qui est un chiffre qui est en augmentation, Alexandre Devecchio. Il y a eu un déplacement du centre de gravité de la France ou pas ?
D'une certaine manière, je récuse presque cette analyse. Ils sont à droite sur le plan culturel. Ils ont nous marre du politiquement correct. Ils ont nous marre d'une immigration qui a produit une forme de désintégration, de violence, etc. Donc ça, le diagnostic est fait, mais il est quasiment transpartisan. Après, est-ce que les classes populaires ont envie d'une purge libérale dans les services publics ? Je ne suis pas sûr. La politique qui a été conduite par une certaine droite qui conduit aujourd'hui à faire qu'il n'y a toujours pas assez de lits d'hôpitaux. Il y a moins 20% de lits d'hôpitaux par rapport au début de la crise du Covid. Et une politique stupide aussi, il faut bien le dire.
C'est la droite et la gauche qui, pour faire des économies
budgétaires, au lieu de le faire sur des prestations sociales qui ne faisaient que nourrir l'oisiveté et l'assistanat, l'ont fait sur des services publics qui étaient utiles à tous. Et c'est même combat droite-gauche. Donc voilà. Donc la situation est plus nuancée qu'on le croit, mais c'est vrai que sur la question de l'identité, de la sécurité, etc., le pays est très à droite, mais parce que la situation est également très inquiétante. Ensuite, pour revenir sur Éric Zemmour, moi je crois que là, il a loupé une occasion. Voilà, moi je ne m'indigne pas de ses propos, mais je pense qu'il a loupé une occasion justement d'expliquer pourquoi il n'était pas misogyne, justement, pourquoi il ne correspondait pas à cette caricature-là.
C'était trop profond.
S'il ne se considère pas comme misogyne, il aurait pu l'expliquer, dire par exemple ce qu'il propose dans son programme pour protéger les femmes,
sur la question de la sécurité. Mais comme vous savez, il n'y a pas de programme pour l'instant,
etc. Donc là,
candidat.
Je trouve qu'il c'est dommage qu'il réponde à la petite phrase. Par ailleurs, elle était lui-même agressée, puisque Marine Le Pen, je trouve, est quand même stupide d'aller sur ce terrain-là. C'est pas faux.
Il est toujours en légitime défense.
Non, mais je reprendrai juste les paroles de Jordan Bardella qui a été filmé. en disant j'en ai marre de jouer la Lycra. Il y a une partie de son clan à Marine Le Pen qui trouve que la stratégie d'aller plus loin dans le politiquement correct que ceux qui sont habituellement politiquement corrects n'est pas forcément la bonne stratégie. Mais si c'est la guerre de petites phrases entre les deux, ce ne sera pas intéressant pour la
Belgique.
Ils seront perdants tous les deux.
J'aurais préféré, comme toi, Alexandre, que par exemple, Éric dise regardons le programme de Marine Le Pen. La retraite à 60 ans, c'est pas sérieux, tout le monde le sait dans le pays. Le maintien des régimes spéciaux, le maintien de. Il y a toute une politique économique dont on voit les résultats aujourd'hui. On a le record du monde des chômeurs,
l'augmentation des salaires.
Des impôts, j'en parle pas. Donc évidemment. Je suis heureux, moi, de voir que Éric Zemmour est en train d'évoluer très rapidement sur les questions économiques par rapport à ce qu'il disait et écrivait il y a quelques années. Je m'en félicite. Maintenant, que le pays soit sensiblement plus à droite, ça me paraît une évidence lumineuse. La social-démocratie n'a plus grand-chose à dire. Enfin, regarde, elle a un bilan, quand même. Droite et gauche, là tu as raison, parce que la droite ayant toujours été plus ou moins sous la domination intellectuelle et philosophique de la gauche, au fond ils ont fait la même politique, y compris Nicolas Sarkozy qui a raté le coche au moment de son quinquennat. Mais c'est naturel que les Français jugent un bilan global. Enfin, si ce pays, moi je veux bien que ce pays ne décline pas, que tout va bien et que c'est formidable, on continue comme ça. On sait qu'on a besoin de réformes extraordinairement profondes et que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. J'attends qu'un certain nombre de candidats commencent à nous dire, plutôt que de s'insulter, ce qu'ils vont faire s'ils sont aux affaires.
On organisera des débats. Coralie Dubost, le dernier mot.
En fait, si vous voulez, pour ma part, droite-gauche, je suis quand même issue d'une élection où les Français nous ont dit majoritairement « ça ne veut plus rien dire, c'est un clivage qui ne nous intéresse pas ». Quand vous écoutez les Français, ils vous disent d'un côté, globalement, qu'ils veulent un peu plus de responsabilité et que le côté « je me défausse en permanence » ou « je suis dans l'individualisme forcené », ça ne leur plaît plus. Et ils vous disent aussi, dans différentes situations, qu'ils veulent plus de solidarité, de conscience collective, notamment de l'environnement, etc. Donc en fait, vous avez des deux. Vous avez un besoin de responsabilité qui me semble tout à fait pertinent, juste et vers lequel il faut tendre. Et vous avez aussi cette demande d'être solidaire et responsable aussi de sa collectivité. Ça se fait aujourd'hui. Enfin, pardon, on peut pas. Je suis d'accord, Karim, on peut parler pouvoir d'achat. Mais la réalité, c'est qu'on est quasiment au plein emploi. Le chômage n'a jamais été aussi bas. Le salaire. On n'est pas loin de ça.
Il y a une spectaculaire augmentation des demandes d'emploi et l'économie repart.
Non, mais laissez-moi parler. Par rapport à ce qu'on a connu en France sur plusieurs décennies, on sort d'une crise et franchement, on n'a jamais eu autant de création d'emplois, d'investissements en France. Okay. On n'a pas eu les faillites qui étaient préconisées. C'est-à-dire qu'en France, on travaille, on continue de travailler, on continue de créer de l'emploi et il faut que les salaires paient plus. J'étais la semaine dernière à Bercy dans un discours de Bruno Le Maire aux entreprises. Je l'ai entendu les responsabiliser dans la rémunération. Et je pense qu'il faut qu'on continue dans ce sens. Il peut y avoir des bonnes nouvelles.
Merci beaucoup.
De la République et de l'autorité. Les Français veulent une République forte qui a été affaiblie par les multiples quinquennats d'hommes de droite, d'hommes de gauche et d'hommes du centre aujourd'hui. Les Français veulent une République forte, ils considèrent que l'autorité n'est pas un gros mot, et si ça, c'est être de droite, alors peut-être que l'ensemble de la population française...
Peut-être que vous êtes de droite, Karim.
Peut-être que l'ensemble de la population française...
Finalement, peut-être que vous êtes de droite.
Moi, je suis certain que je suis républicain. Et les républicains sont aussi à gauche.
Allez, merci à tous les quatre. Merci, Coralie Dubost, d'être venue ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline. Et sur CNews, tout de suite, c'est Christine Tekeli et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes. Allez-y, continuez à parler. Bonne soirée à vous.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier. Bonsoir, merci d'être resté, mon cher Jean-Claude.
Mais c'est un plaisir.
Guylaine Ottenheimer est avec nous, rédactrice en chef à Challenge. Bonsoir à vous. Et Amine El-Khatmi qui rigole, présidente du Printemps Républicain. Bonsoir Amine, ravi de vous retrouver tous les trois pour notre petit menu de Punchline. Allez, on va peut-être commencer par Renaud Muselier, Les Républicains. On commence. Qui était ce matin invité d'un de nos confrères et qui a dit à la stupéfaction générale que si Éric Ciotti, qui est candidat à la primaire LR, était désigné, eh bien tout simplement, il claquerait à la porte des Républicains. Écoutez.
Si Éric Ciotti l'emportait à la primaire, vous faites quoi ?
Ah mais moi je quitterai immédiatement le LR. Je démissionnerai immédiatement. Je quitterai ma famille politique. Ça voudra dire que je suis minoritaire, que ma famille politique a décidé de mettre en place quelqu'un qui est à plus de la droite de l'extrême droite. Bon, tous ceux qui veulent un avenir pour la droite, tous ceux qui ont, où on a une expérience de gestion, de savoir-faire et pas de haine, de rejet, d'antipathie, de mesquinerie, de méchanceté, de trahison, de trahison. C'est j'en ai au milieu des traîtres là quand même. Donc de toute façon la seule chose qui compte, il faut bien le savoir, c'est que M. Ciotti, chaque fois qu'il soutient quelqu'un, il perd.
M. Muselier est le petit télégraphiste d'Emmanuel Macron. Voilà, il soutiendra Emmanuel Macron. Renaud Muselier, il avance masqué, mais en réalité, comme certains de ses amis au Sud qui sont déjà passés dans le camp d'Emmanuel Macron, il est totalement macronisé.
Voilà, pour l'ambiance chez les Républicains, entre Renaud Muselier, Éric Ciotti, Guylaine Ottenheimer, les noms d'oiseaux fusent. Traître, petit télégraphiste d'Emmanuel Macron, ça promet hein, pour la primaire.
Quelle famille hein, faut pas besoin d'ennemis.
C'est sûr.
Bon, Ciotti a aussi donné des vertes pour se faire fouetter en disant que si jamais Zemmour était au second tour, il voterait pour lui. Enfin... On est loin de là, il n'y a pas besoin de dire ça, tout ça pour récupérer des voix de Zemmouristes. Enfin, on est quand même dans un petit jeu où tout le monde dit des bêtises, des stupidités. Et moi, je serais muselier, je veux dire, vraiment, à quelques jours d'un congrès où le maître mot, c'est le rassemblement, on va s'écouter, on va se respecter. Il n'avait pas besoin de faire cette sortie. Il suffisait de dire, il y a peu de chances quand même que Ciotti soit choisi, donc je ne réponds pas à la question, plutôt que de déverser.
Mais c'est les tontons flingueurs, là. Ils ont
habité côte à côte pendant des années. Alors, il y a un petit territoire qui leur échappe. Ils ont gagné une élection. Ils leur ont piqué un mec. Bon, voilà, ils sont très mal partis parce que s'ils n'arrivent pas à avoir un peu plus d'élan que simplement se flinguer entre eux, je veux dire, voilà, déjà, ils ne sont pas très hauts dans les sondages, mais il y avait une occasion de se rassembler là, le 4 décembre, mais on voit qu'on est loin
ils
du
compte. Ils sont à touche-touche. On parlait de gauche irréconciliable et des droites irréconciliables, désormais, Jean-Claude Dacier.
Je crois que la droite, tout doucement, est en train de s'asphyxier dans des rivalités internes, dans des querelles d'égo et puis aussi dans des querelles de ligne. Ah oui. Je ne sais pas ce qui sortira du vote des militants, qui ont l'air d'augmenter. Ils étaient 80 quelques mille, on les annonce aujourd'hui à 100 000. Je ne sais pas qui sortira vainqueur de cette historique confrontation. Ce que je pressens, c'est que une partie des gens aujourd'hui qui sont restés au sein des Républicains rallieront Macron. Pour les plus malins, avant la présidentielle, pour les plus prudents, après la présidentielle. D'autres iront peut-être garder la vieille maison et la troisième iront rejoindre Zemmour ou ce qui restera du Rassemblement National. Si, comme je le pense, Marine Le Pen disparaît, si elle est de nouveau battue, elle devra quitter probablement la scène et ce jour-là, des choses probablement seront possibles à droite ou en tout cas au Rassemblement National, repris par Zemmour ou par quelques-uns de ses amis ou à ses côtés. Donc on est encore dans un processus, comme disait l'autre, la poutre continue de travailler. C'est fini. Je pense que la grande droite qu'on a connue il y a quelques années, qui avait su rassembler à ses côtés une partie du centre, cette droite-là meurt tout doucement. Macron a piqué déjà une bonne partie de ses électeurs et un certain nombre de ses adhérents, pas parmi les plus mauvais. Un ministre de l'Intérieur, il y a Édouard Philippe, etc. Et ce n'est donc pas terminé. Mais tant que Marine Le Pen est là, c'est pour ça que la primaire à droite est intéressante, mais encore plus intéressant est la primaire à gauche. Le choc très violent, et qui s'annonce, et qui est déjà très violent, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, je ne sais pas...
À droite, oui.
Rassemblement National. Je pense que c'est à ce moment-là que les choses se dénoueront. Je pense que Marine Le Pen, si elle doit être deuxième, et si elle est de nouveau battue dans la présidentielle, elle devra céder la place. Et là, cette droite-là se reconstituera.
Amine El Khatmi, comment ces deux personnes qui sont M. Muselier et M. Ciotti peuvent être dans le même parti? C'est vraiment la question.
C'est ce qu'on se demande, en fait. C'est qu'ils n'ont plus rien à faire dans le même parti.
Ils y restent parce qu'ils ont tous des intérêts pour des investitures, des logos, mais ils n'ont plus rien à faire. Enfin, on se souvient de l'épisode des régionales où M. Muselier avait été convoqué devant une espèce de tribunal politique à Paris à la demande de Ciotti, qui rend la monnaie de sa pièce là aujourd'hui, parce qu'il avait envisagé d'accueillir Mme Cluzel, la secrétaire d'État, et quelques élus macronistes sur sa liste. On se souvient de l'épisode chez M. Rottner, qui n'avait pas voulu de Nadine Morano, qui avait fait tout un scandale avec le talent qu'on lui connaît. Ils sont d'accord sur rien. Certains avaient refusé d'appeler à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la dernière présidentielle, quand d'autres appelaient au Front Républicain. Vous en avez qui disent, nous, Macron-Zemmour, on vote Zemmour, et d'autres qui disent, mais c'est horrible, on peut pas faire ça. Donc, c'est une maison qui tient des gens qui ont des intérêts parce qu'ils ont des strapontins et des gens à placer, mais ils ne produisent rien, ils ne pensent rien, et quand ils pensent quelque chose, ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils ont pensé. Tout ça.
Alors, ils ne pensent rien, non, parce qu'ils articulent tous leurs programmes en ce moment. Vous parlez des deux en question.
Je parle de l'appareil en tant que tel, du parti. Un parti, c'est aussi fait pour produire des idées. Mmh. Là, oui, vous avez des propositions de Pécresse, de Bertrand, des uns c'est et des ça. Autres, mais ils ne sont plus d'accord. Et on voit bien que la décomposition des deux grandes vieilles formations politiques, qui étaient l'EPS et l'UMP, RPR, LR, va s'achever avec cette présidentielle.
Guylaine, vous voulez rajouter quelque chose?
On voit bien à quel point ce parti est en boîte déliquescence. Je veux dire, c'est absolument pas normal que les deux principaux protagonistes de cette primaire aient quitté le parti et reviennent en prenant leur carte. C'est quand même assez incroyable. Ensuite, c'est très bien, chaque candidat a fait une proposition, le SMIC augmenté de je sais pas quoi, les salaires augmentés de je sais pas quoi, un peu plus de policiers, voilà. Mais c'est pas ça un travail de parti. C'est, tous ces gens auraient dû être ensemble, avec des conventions, avec les syndicats, avec des think tanks, avec des philosophes, etc. Travailler la matière, se mettre d'accord, parce qu'il n'y a plus de lien. Si vous avez juste des personnalités, et puis vous avez plus de corpus idéologique, eh ben c'est juste, comme vous le disiez, les petits intérêts. Moi, je veux telle investiture. Ah non, ce canton, il est à moi, parce que j'en ai besoin pour être ensuite élu président du département. Donc, voilà. Et ils vont finir, comme on disait, dans une cabine téléphonique, si ça continue comme ça. La seule interrogation qu'il y a, c'est l'après-Macron et Édouard Philippe. Voilà. Et parce que c'est une personnalité qui est suffisamment forte pour rallier cette famille centre-centre-droit. Il n'y a personne à gauche pour reprendre la famille Macron. Donc voilà, est-ce que lui pourra reformer un corpus, etc., qui ne sera pas juste une dérive de la droite républicaine vers l'extrême droite?
Pas faux.
Je crois que la seule situation qui pourrait leur redonner un peu d'oxygène, c'est que le candidat qui sera désigné par le Congrès des Républicains au mois de décembre, que ce candidat-là, que ce soit M. Barnier ou que ce soit M. Bertrand ou un autre, soit en piste face à Macron au deuxième tour de la présidentielle. Là, je veux bien croire que la droite dite légitimiste, dite traditionnelle, celle qu'on a connue depuis des années, retrouvera un peu de couleur, même si le candidat en question est battu, ce qui est possible, mais ce n'est pas certain. Même si le candidat est battu, je pense que ça pourrait redonner un peu d'espace et de légitimité à cette droite-là. Mais il y a encore quelques obstacles à franchir.
Ce qui paraît extraordinaire par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui, en se disant, mais que font-ils dans le même parti? C'est qu'il y a quelques années, et pas il y a 30 ans, il y a quelques années, il y a un parti qui s'appelait l'UMP, qui a réussi à mettre dans la même maison des centristes, des libéraux, des souverainistes, des amis de M. Séguin,
des antimastriques,
des gaullistes, de la droite sociale, enfin bref, des gens qui représentaient les diverses nuances de la droite, mais qui avaient arrivé à s'entendre parce qu'il y avait un chef, et on sait que la culture du chef à droite, beaucoup plus qu'à gauche, est importante. Quand il y a un leader, on le suit. Et puis, il y avait une conquête du pouvoir. Et là, ils n'ont ni chef, ni conquête du pouvoir.
Ils tentent la conquête.
Un coup de pied dans la
Absolument, à tout ça. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Et pourtant, le paradoxe, c'est que 37% des électeurs se placent à droite de l'échiquier politique aujourd'hui dans notre pays. C'est un chiffre en augmentation. C'est une étude Fondapol, opinionnée pour le Figaro. On en débat dans un instant dans Punchline sur Europe 1. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, on est avec Jean-Claude Dacier, Guylaine Ottenheimer de Challenge Amine El-Khatmi, président du Printemps Républicain. On évoque le fait que 37% des électeurs se placent à droite de l'échiquier politique aujourd'hui. C'est une grande enquête, Fondapol pour Opinionway Le Figaro. C'est plus 4 points par rapport à 2017. Ça a vraiment progressé, Amine El-Khatmi. Et pourtant, il y a des guerres intestines dans la droite, que ce soit l'extrême droite ou la droite, et qui sont absolument dévastatrices.
Mais oui, mais parce que les thèmes de préoccupation des Français qui structurent les opinions mois après mois, que sont notamment la lutte contre l'insécurité, le rétablissement de l'autorité de l'État, le contrôle des flux migratoires, sont abandonnés ou caricaturés par la gauche et de fait préemptés par la droite. Voilà. Donc quand vous passez votre temps à abandonner les préoccupations premières des Français, à les moquer, à vous intéresser de sujets mineurs pour plaire à des petites clientèles électorales et que vous ne parlez plus à la majorité des citoyens en considérant que c'est faire le jeu de l'extrême droite, bah à la fin, oui, c'est ceux qui en parlent qui récoltent les fruits. Donc la gauche ne peut s'en prendre qu'à elle-même.
C'est un paradoxe, Guylaine Ottenheimer, ce chiffre.
Non, on assiste à un basculement culturel. Il y a une domination évidente de la gauche sur les valeurs, sur la culture, sur l'université. Les valeurs progressistes ont dominé la scène politique, la scène culturelle depuis même avant mai 68. On peut faire partir ça à mai 68. Et aujourd'hui, cette idéologie s'épuise. Elle aboutit à une impasse sur l'insécurité, sur l'égalité, sur la redistribution. Aujourd'hui, on met des rustines partout dans notre système social. Donc là, on revient à des valeurs de travail, d'or, de justice, etc. Et je relisais cet après-midi une phrase, il faut que la peur change de camp. Vous savez qui a dit ça? Bon, on pense à Macron récemment. Mais c'est Pasqua qui disait ça déjà dans les années 80.
Il disait qu'il faut terroriser les terroristes.
Non, il disait que la peur doit changer de camp aussi. Et donc ça veut dire que quand il disait ça, bon, c'était le méchant ministre de l'Intérieur, de droite, etc. Aujourd'hui, on voit bien que tout le monde pourrait dire ça. Voilà. Donc il y a quand même il y a un changement culturel gigantesque qui est en train de se passer.
Jean-Claude Dacier, votre analyse?
Oui, quand on fait le bilan quand même d'une politique partagée par la droite et la gauche, on l'a dit, c'est une banalité de le répéter. La droite et la gauche sont, comment dire, solidaires du bilan que l'on constate aujourd'hui, qui est quand même que la France n'est pas la mieux portante de l'Union européenne, loin s'en faut. Il suffit, je ne vais pas le répéter, il suffit de regarder le nombre de nos chômeurs, la fiscalité, le déficit budgétaire, les dettes, etc. On est géré au contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Le courage politique a souvent beaucoup manqué aux titulaires des jobs importants ces 20 ou 30 dernières années. Ce n'est pas un hasard. Si vous voyez arriver deux têtes nouvelles, qui sont et Macron et Zemmour. Alors on verra le succès de l'un et le succès de l'autre. Mais évidemment que les Français, on leur raconte plus d'histoires. Et qu'on ne peut pas leur dire en permanence qu'on va continuer de... Quand vous voyez que vous avez encore un tiers ou la moitié du pays qui considère que nous sommes un pays où les disparités sociales sont inacceptables, etc. Mais enfin, c'est quand même l'inverse. Quand vous regardez la réalité de ce pays, avant les impôts et après les impôts, nous sommes le pays le plus solidaire quasiment de la planète. Les écarts entre les plus riches et les moins riches sont de 5 ou de 6. Il n'y a pas un pays qui fait mieux que nous. Mais ça se paye. Alors, faut-il continuer dans cette voie-là? On s'est désindustrialisé. Pourquoi une fiscalité écrasante, avec des taxes et des impôts partout, qui ont chassé l'entreprise? Tout ça se paye. Et au jour d'aujourd'hui, les Français, ils ont tendance, en effet, à écouter bon, Macron avec un discours qui peut apparaître parfois un petit peu désarçonnant, puisqu'il continue de croire qu'il est à la fois de droite et de gauche, mais vous avez un Zemmour qui fait 13, 14, 15 ou 16 dans les sondages, qui fait un constat qui est incontestable. Alors après, on peut être en désaccord, et c'est mon cas, sur un certain nombre de ces solutions, mais sur le constat de la réalité de ce pays, je pense qu'il n'a pas tous les torts. Donc voilà, on entre dans une phase, comme tu le disais, on a basculé dans quelque chose de nouveau, je ne sais pas si droite et gauche, c'est encore pertinent. Il se passe quelque chose dans ce pays, je dirais enfin.
Alors, justement, vous évoquez Éric Zemmour. On va écouter ce qu'il reproche à Marine Le Pen. Il lui reproche d'être de gauche. Les mots ont un sens. Écoutez comment il articule cela.
Pauvre Marine Le Pen. Je la plains. Je la plains de devoir reprendre, de parler comme Marlène Schiappa, de parler comme la gauche, de parler comme les féministes.
Je la plains de devoir reprendre des arguments, mais vous savez, j'avais été le premier à le dire et à le diagnostiquer. C'est une femme de gauche. Tous ses réflexes sont de gauche. Elle est en décalage avec son électorat.
Alors, Guylaine Ottenheimer, est-ce qu'il a tort ?
Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il essaye simplement de la détruire. Il a eu la phrase qui tue en disant tout le monde sait qu'elle ne sera jamais élue, ce qui est assez probable. Mais de le dire publiquement de cette façon, ça a fait beaucoup de mal à Marine Le Pen, parce que c'est écrit sur son front aujourd'hui. Maintenant, aller dire qu'elle est de gauche, elle est populiste, et voilà.
Ce programme économique.
Bon, voilà. Est-ce que.
Retraite à 60 ans.
Le nombre de dictateurs qui ont fait des choses pour le peuple, voilà. Est-ce qu'ils étaient de gauche pour autant ? Je veux dire, les valeurs quand même de Marine Le Pen sont plutôt l'ordre, la sécurité, la nation, la patrie. Enfin, c'est plutôt quelqu'un de droite, moi, je veux bien. C'est comme quand on disait le général de Gaulle, il n'était pas vraiment droite. Oui, enfin, il était quand même général, militaire, l'ordre, ça comptait. Je veux dire, il y a quand même des choses qui sont plus prégnantes. Non, je pense qu'il cherche systématiquement à la détruire, mais qu'il faut qu'il fasse attention, parce que, si vous voulez, il dégage une telle animosité, une telle méchanceté, un tel mépris. Quand je la plains parce qu'elle défend les femmes. Bon, la pauvre. Vous comprenez, moi ça me fait mal quand j'entends ça. Je veux dire, non, c'est bien qu'elle défende les femmes, qu'elle défende les atteintes aux personnes. C'est bien, ça fait partie des bonnes choses de Marine Le Pen.
Amine El Khatmi.
Oui, puis j'ai l'impression, qu'il y a encore plus de violence quand il s'agit de parler d'une femme. Je le ressens comme ça dans ses déclarations. Il faut vraiment y prêter attention quand il parle d'un homme. Les mots ne sont pas les mêmes.
Le Pen, précisément, lui reproche sa misogynie. Oui, c'est pour ça qu'il répond aussi violemment.
Je m'arrive pas souvent de dire ça. Je pense là, en l'occurrence, que Marine Le Pen a raison. Lorsqu'il traite Marlène Schiappa d'imbécile, lorsque, en direction d'une de vos consoeurs, en pleine émission, il dit « mais pauvre folle ». Bon, je pense que c'est des mots qu'il ne se permet pas avec des hommes. Voilà, et donc ça dit aussi quelque chose du personnage. Bon, quant au fond du propos... il est outrancier, vous avez raison, il cherche à la détruire. Je ne crois pas que les Français soient friands de ce genre de choses à long terme. On a beau dire que c'est un peuple fougueux, impétueux, qui aime bien la joute et qui aime bien les grandes joutes politiques.
Mais ils veulent du fond.
Du fond.
Et ils sont un peu en manque de fond, là.
Ils n'apprécient pas beaucoup ce genre de propos, donc ça risque de se retourner contre lui.
Marine Le Pen déroule depuis des semaines des propositions. Elle a fait des tables rondes, Jean-Claude. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la table, déjà.
Non,
même si on n'a pas le programme définitif.
Sur la manière de faire, je pense qu'il a tort et que c'est contre-productif. Qu'ils disent qu'elle est de gauche, quand on regarde son programme économique, c'est plutôt un parti attrape-tout. Elle disait oui à toutes les revendications pour essayer d'élargir au maximum sa surface électorale et d'être enfin capable de dépasser 50%. Bon, elle est peut-être, en effet, elle s'est dédiabolisée, ce qui voulait dire, semble-t-il, que son papa était peut-être plus diable qu'autre chose. Mais de là à la traiter comme il la traite... Alors, à la limite, je comprends l'objectif politique, parce qu'ils sont deux sur la même clientèle. Zemmour rêve aussi de prendre la bourgeoisie, etc. Pour l'instant, on va voir. Peut-être qu'il y parviendra, j'en sais rien. Il a déjà une partie de ceux-là qui viennent. Mais pour l'instant, ils sont quand même deux sur un créneau, qui est celui du Rassemblement national... qui pèse quand même beaucoup, on voit, quand on additionne les voix de l'un et de l'autre, les intentions de vote des uns et de l'un et de l'autre, ça fait quand même beaucoup. Mais à deux, ils sont morts. Donc il faut que l'une ou l'un prenne le dessus. Il y a une primaire à droite ou à l'extrême droite, dites comme vous voulez, qui est mortelle, mortifère. Il va falloir que ou l'une ou l'un reconnaissent sa défaite. Sinon, c'est le candidat des Républicains qui va se qualifier pour le deuxième tour.
Parce que vous savez très bien qu'il y a un enjeu financier.
Parce que quand
on est candidat, on engage des sommes, on engage son parti. Et si on ne se présente pas, on n'est pas remboursé.
Je pense que Marine Le Pen, avant qu'elle s'en aille, avant qu'elle mette un genou à terre, il va s'écouler du temps. C'est là où je ne comprends pas la stratégie de Zemmour.
Est-ce qu'il en a une? On a l'impression qu'il avance avec beaucoup d'impulsion, d'envie, de culot. Il s'étonne lui-même même d'être allé si loin, et il continue et il saute sur le rocher suivant. Mais on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment un cap, parce qu'un jour il séduit vraiment la manif pour tous, les anti-GPA, anti-mariage gay, et le lendemain, on a l'impression qu'il veut recueillir le peuple en disant on va supprimer le permis à points. Alors, pas un toc magie.
Oui, mais ça crante. Hein, c'est des sujets qui crantent l'opinion publique.
Qui crantent. Non, ceux qui crantent, c'est là où il a raison. Point, parce que résonne. Vous disiez que quelquefois il a raison dans le diagnostic.
Permis, ça résonne.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens voient que les gens font des rodéos ou brûlent des villes entières et il ne se passe rien. Et le type qui est tous les jours dans sa petite voiture pour aller représentant de commerce, il passe à 33 à l'heure sur les quais ou à 72 à l'heure sur la nationale. Et voilà, il perd 4 points, il est obligé de passer des stages, ça lui fait des jours de travail en moins. Voilà, ils ont l'impression qu'on les enquiquine alors qu'ils font quelque chose qui ne met pas en danger la société et puis que d'autres qui mettent en danger. Mmh. C'est ça qu'ils pointent là. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit une façon de recueillir l'assentiment du peuple, vraiment.
Mais c'est dommage parce que honnêtement, moi, quand je l'entends, par exemple, réfléchir sur l'Europe, ça m'intéresse beaucoup. Et je partage ses interrogations sur qui commande. Enfin, est-ce que c'est Bruxelles ou est-ce que c'est la Constitution française ? Quand je l'entends parler de la faiblesse des moyens et du gouvernement des juges, ça m'intéresse beaucoup parce que je ne suis pas loin de partager son point de vue. Quand il parle du n'importe quoi qui a présidé, ou plus exactement de l'absence de politique d'immigration, je ne suis pas loin de partager son point de vue.
Il faisait ça très bien comme éditorialiste. Ce que je veux dire, c'est qu'en face, c'est quoi ?
En face, il n'y avait pas grand monde qui reprenait ces thèmes-là. Il les a inscrits dans le débat, rien que pour ça.
On parle du manque de moyens de la justice, ça fait des années qu'on
Mais ça fait des années qu'on ne fait rien.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas de sous, parce que vous, comme vous le disiez, qui osera changer le système de redistribution ?
Parce qu'on met pas l'argent où il faut, on ne peut plus, ce n'est financé que par la dette.
Vous savez, c'est très difficile de retirer le tapis. Hein. Vous savez qu'on a fait un sondage, c'est incroyable. 50% des Français reçoivent plus de la collectivité qu'ils n'y contribuent. Toutes les études le montrent. Oui. Et on a posé la question, est-ce que vous contribuez plus ou vous recevez plus ? Il n'y a que 10% qui pensent qu'ils reçoivent plus qu'ils ne donnent. Que 10%.
Voilà. Donc, ce n'est pas la réalité.
Les gens ne se rendent pas compte.
Donc, il y avait comment s'appelait ce dernier combattant de Londres qui est mort il y a quelques jours ?
Monsieur
Germain. Il a prononcé dans un dialogue qu'il a eu avec le président de la République une phrase qui m'a tétanisé, parce qu'elle est tellement profonde et tellement juste. Il a dit à l'époque où on se battait à Londres ou ailleurs, nous n'avions et n'éprouvions le désir, le besoin d'en avoir que des devoirs. Aujourd'hui, les Français, ils pensent qu'ils n'ont que des droits. Si on ne change pas ça, on est mal parti.
Allez, on fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant. Que se passe-t-il à gauche ? Quelles sont les idées qui sont produites par la gauche ? On verra que Adrien Quatennens propose de supprimer, de rétablir l'ISF. A tout de suite dans Punchline.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, on va s'intéresser à ce qui se passe à gauche. On est toujours avec Jean-Claude Dacier, Guylaine Ottenheimer et Amine El Khatmi. Adrien Quatennens de la France Insoumise était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1. Il y a pas mal d'idées et il y a bien sûr le mantra sur l'ISF que propose la France Insoumise. Écoutez Adrien Quatennens.
Quand M. Macron a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, il nous a promis à toutes et tous que ça allait avoir un effet sur l'emploi et l'investissement. Il a même dit d'ailleurs, si ça n'a pas d'effet sur l'emploi et l'investissement, on corrigera. Madame Schiappa, que je prends de nouveau à témoin ce matin depuis votre micro, avait elle-même dit en 2018, si la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune n'a pas d'effet sur l'emploi et l'investissement, c'est Madame Schiappa qui parlait, je proposerai son rétablissement. Très bien madame, séance tenante, rétablissez-le. Parce que France Stratégie, ce n'est pas un organisme qui peut être suspecté d'être proche des insoumis. Et précisément, ils viennent de dire que la suppression de l'ISF n'a eu aucun effet.
Alors, à gauche, quoi de nouveau, Amine El Khatmi ?
Alors, je vais faire hurler Jean-Claude Dacier, mais je ne suis pas loin d'être d'accord avec Adrien Quatennens.
Ça ne m'étonne pas.
Pourquoi ? Non, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ?
D'abord, sur la forme, parce que, qu'on soit d'accord ou pas, il a le mérite de mettre sur la table une idée. Voilà, on se plaint assez que le débat public soit confisqué par des petites phrases.
Il y a des nouvelles, c'est bien.
Laissez-moi finir, cher ami. Au moins, il met sur la place une idée. Moi, je ne suis pas opposé au principe d'un rétablissement d'impôt sur la fortune s'il est accompagné d'une vaste réforme fiscale. Et notamment d'une vaste réforme fiscale qui fasse moins peser sur la classe moyenne, parce que c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est la classe moyenne, ce sont les cadres, les professions intermédiaires, des couples qui payent plein pot. Et donc, si on ne lisse pas davantage l'impôt sur le revenu, et si par ailleurs, moi, c'est une proposition que je fais, on ne crée pas un impôt universel, c'est-à-dire, bah, même lorsque vous touchez peu, même lorsque vous êtes accompagné par la solidarité nationale, bah, 10 euros par mois, 5 euros par mois, 6 euros par mois, pour avoir conscience que non, l'école n'est pas gratuite, que non, la carte vitale n'est pas une carte bleue et que c'est quelqu'un qui paye, que non, l'entretien des rues, la voirie, tous les services publics dont on dispose, ce n'est pas l'État qui paye selon la formule consacrée, mais c'est des gens qui payent par leur impôt. Eh bien, je pense que si on accompagne par cet impôt universel et par une réforme fiscale, je serais d'accord. Si c'est simplement agiter le chiffon rouge pour dire « salaud de pauvre, on va vous faire payer », là, je ne serais pas
d'accord. Salaud de riche, peut-être, plutôt.
Pardon, excusez-moi.
Bien sûr. Hein.
C'est un lapsus chacun.
Guylaine Ottenheimer.
Moi, c'est le degré zéro de la pensée politique. Bon, je n'ai pas lu toujours cette étude de stratégie, de France Stratégie, mais on lui fait dire beaucoup de choses aujourd'hui, puisque même Éric Zemmour s'en inspire, enfin, tout le monde s'en inspire. Ce qu'on sait, c'est que c'est un faisceau de mesures qui a quand même changé un peu la face de l'économie française, avec la baisse du taux de prélèvement sur les dividendes financiers, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant d'investissements. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup moins de départs à l'étranger pour des raisons fiscales. Il y a même des retours. L'image de la France est quand même plutôt assez bonne. Les investissements étrangers, on était premier ou deuxième en Europe. Donc voilà, il ne faut pas toujours pleurer sur la France. C'est vrai que ça donne des effets à long terme. De toute façon, les grandes civilisations, c'était les civilisations où il y avait beaucoup de riches. C'est terrible à dire, hein. Mais quand vous prenez n'importe quel grand royaume dans l'histoire, c'était des royaumes qui étaient très riches. Alors, est-ce qu'il y a un ruissellement? Est-ce que les pauvres sont plus heureux dans un royaume riche, ou bien il vaut mieux tout étaler? C'est compliqué. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le rapport à l'impôt, le rapport à la dépense publique en France est très malsain. C'est que les gens ne savent pas ce qu'ils reçoivent. Ils reçoivent beaucoup et savent que ce qu'ils donnent, et c'est toujours bien un sûr. Peu les mêmes qui ont le sentiment donné. Et c'est vrai que, bon, je dois le dire, je suis une libérale, mais je reconnais que quand même, les mesures Macron ont plus bénéficié aux riches qu'aux pauvres.
Bien sûr. Jean-Claude Dessier,
oui,
l'ISF.
On verra.
J'aimais ça, l'ISF.
Mais d'abord, Macron n'a pas supprimé l'impôt sur la fortune, il en a supprimé à la moitié. Ça rapporte en ce moment 3 milliards, 3 milliards et demi, ça rapportait un peu moins du double lorsqu'il y avait l'impôt plein pot dit sur la fortune. Le déficit budgétaire doit être, cette année, que je ne dise pas de bêtises, on va monter à 200 et quelques pourcents, donc il va être gigantesque. Ce n'est pas ça qui nous aiderait beaucoup dans la reconquête de notre équilibre budgétaire. Bon, la démagogie est là, mais c'est un problème, Guylaine Ottenheimer a très bien dit, c'est un problème de philosophie politique. Ou vous estimez que les riches n'ont pas leur place dans ce pays, que moins il y en a, mieux ça vaut, et que l'argent, bah, il suffit, comme disaient les communistes, il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser et le redistribuer. Tout ça n'est pas très sérieux. Je pense en effet que dans le monde ouvert aujourd'hui, il faut essayer d'attirer le maximum de monde, éviter qu'il y ait le minimum de gens qui s'en aillent pour aller mettre leur argent ailleurs. L'objectif n'est que moyennement réussi, parce qu'il aurait fallu supprimer la totalité de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune, mais bon, acceptons.
Supprimons l'impôt tout court.
Oui, acceptons. Ben c'est le cas de 50% des Français, oui. Le meilleur point. 50%
qui ne paye pas l'impôt. Ouais.
Eh bien, justement, il va falloir commencer à regarder comment on finance tout ça, en faisant des économies pour commencer, puis peut-être que tout le monde va devoir payer un peu d'impôts supplémentaires. Oui, ce n'est pas
c'est ce que propose Amine, hein,
en débat du tout pour la prochaine présidentielle.
Personne ne le dit, ça.
Mais il va bien falloir constater qu'on est couvert de dettes. Ça s'est encore considérablement accru avec la crise du Covid, et qu'à un moment ou un autre, il va bien falloir regarder la réalité en face. Ou alors on se dit qu'après tout, on s'en moque, que les dettes, on les remboursera jamais, et que chacun fasse ce qu'il veut. On verra comment ça se terminera.
Bon, à part ça, quelles idées neuves ont percé à gauche, Guylaine Ottenheimer, là, dans les dernières semaines?
Bah, rien, parce que je pense qu'ils sont toujours sur le même logiciel des années post-marxistes, redistribution, haine des riches, lutte des classes, etc. Alors que la gauche américaine, qui a quand même donné Obama et un certain nombre de leaders politiques de grande qualité, ils ont réfléchi à la justice, c'est-à-dire l'égalité des chances. Et on voit bien que l'égalité de chance aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui a repris les bonnes idées, c'est-à-dire ça se passe dans la petite école, ça se passe dans la petite enfance, ça se passe dans l'éducation, et il va falloir renforcer notre système éducatif. Et d'ailleurs, les Français sont très meurtris de ce qu'on baisse dans les classements PISA et que nos enfants écrivent avec des fautes d'orthographe. Les Français se rendent compte que c'est un des signes de notre décadence. Donc il faut mettre des moyens véritables sur l'école, il faut avoir des idées sur qui dirige l'école, qui dirige les profs, comment on sanctionne un prof qui est tout le temps absent. Je veux dire, il y a un moment où il faut muscler notre école. Pourquoi ça marche mieux dans l'école privée que dans l'école publique? Il va falloir un moment se poser la question. S'il n'y avait pas aujourd'hui un plafond, on n'a pas le droit d'avoir plus de temps de professeurs et d'élèves dans le public, dans le privé. C'est-à-dire le privé exploserait par rapport au public. Absolument. Donc il y a un moment où il faut se poser la question du management dans l'école. Voilà. Et donc il y a des tas de choses. Peut-être que demain, il faudra aussi payer pour aller à l'université. Pas cher, mais un peu, pour se rendre compte que c'est un bien alors extraordinaire.
Là, celui qui met l'idée sur la table,
mais
effectivement.
Oui, mais il y a un moment, il faut quand même se rendre compte que quand aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, vous payez 10 000 euros ou 100 000 euros pour faire des études et qu'en France, c'est zéro, et que les gens redoublent trois fois, il y a un moment, il faut se rendre compte de la valeur des choses.
Et surtout, pas de travail à la sortie. Anne Hidalgo a proposé de doubler le salaire des enseignants.
Ça, avec un grand succès, comme on l'a vu, on en a parlé pendant 48 heures et puis personne.
C'est-à-dire qu'on accroît les difficultés.
Non, mais on voit
temps.
Bien que c'est. Pourquoi vous dites, est-ce qu'il y a des idées? Il n'y a pas d'idées. Quand il y a des idées, elles sont sorties comme ça du chapeau parce que ce sont des gens qui n'ont pas travaillé.
Mais ils ont fait quoi?
Rien. Ils se sont. Le Parti Socialiste, par exemple, qui aurait dû faire le droit d'inventaire de François Hollande. Faire un bilan critique du quinquennat, réfléchir, ils ont du temps depuis 2017, faire des conventions, consulter des experts et arriver avec un bloc programmatique en disant voilà, nous on est des sociaux-démocrates, on est des gens, une gauche de gouvernement, voilà ce qu'on propose sur 5, 6, 7, 8 grands sujets. Ils n'ont rien fait de tout cela, rien.
Mais tu sais bien qu'ils ne veulent pas être sociaux-démocrates. Ils ne veulent pas.
Ça dépend lesquels, il ne faut pas dire.
Oui, la gauche danoise qui a bossé pour le coup. Qui s'est saisi de sujets de sécurité, d'ordre, d'immigration.
Oui, sur la prison, sur tout
sur,
ça.
Sur vraiment, ce qu'a fait la gauche danoise est absolument remarquable, à la fois des mesures de justice sociale, une gauche pro-européenne et en même temps une gauche d'ordre et de sécurité. Mais ils sont en tête dans les intentions de vote et ils ont le vent en poupe chez eux.
Ils ont mis de l'ordre dans leur fonction publique. Ils ont supprimé le statut particulier et spécial, qui n'a aucun sens dans un pays moderne. Il y a beaucoup à faire, un peu de courage, simplement.
Mais c'est pas au programme. Vous avez entendu ça dans les programmes de gauche?
J'attends. Pour l'instant, les programmes,
ils sont même pas dans les programmes de droite.
Ils sont encore en pointillés.
C'est pas dans les programmes de droite, dit Lautenheimer.
Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Il y a une grève des gilets jaunes. Vous avez vu la grève pour le statut des cheminots?
Ils ont vu la grève.
Il y a un moment.
Ils ont annulé leur grève du week-end prochain. Je ne sais pas s'ils ont déjà touché une petite augmentation comme la dernière fois. La dernière fois, ils ont menacé de se faire grève et hop, le président de la SNCF a donné l'argent qu'il fallait.
On peut pas mettre sur le même plan. On peut pas mettre sur le même plan des sujets. Évidemment que le régime spécial des cheminots, il peut prêter à débat. Il y a sans doute des
arguments.
Permettez, sans doute que. Moi, j'ai entendu dire que jusqu'à encore récemment, il y avait une prime charbon. Mais plus de charbon dans les TGV. Elle a été supprimée, mais elle existait. Donc, ça, c'est des débats. Après, quand on dit l'État-providence, l'État-providence, c'est la solidarité nationale. C'est bien. C'est bien qu'il y ait. On a bien vu pendant la crise.
Parce que ceux qui en ont vraiment besoin n'en ont pas assez.
Les gens qui sont restés.
Il y en a beaucoup qui n'en auraient pas besoin et qui touchent quand même.
Les gens qui sont restés chez eux pendant le confinement et qu'on a continué à payer les malades qu'on a reçus. Moi, je suis fier qu'en France, alors tout n'est pas parfait, mais dans l'hôpital public, on ait reçu des gens. Alors qu'en Tunisie, à une heure d'avion, des gens mouraient au sol parce qu'ils n'avaient pas d'oxygène. Ou au Maroc ou en Inde, des gens qui crevaient dans les halls des hôpitaux.
On n'est pas en désaccord.
Non, mais nous, on n'a pas vu ça. Et c'est tant mieux, mais ça coûte de l'argent.
Ça coûte de l'argent. La circonstance était exceptionnelle. Je ne parle pas de circonstances épidémiques. Je te parle de la manière dont ce pays est géré depuis 20 ou 30 ans, avec les résultats que nous avons.
Oh, même plus 40 et 50 ans.
Si on veut.
On peut remonter un peu plus loin.
Mais je ne veux pas faire de provocation. Mais c'est vrai que le déclin, le vrai, quand on regarde de près les courbes, ça commence en
81.
Bien sûr.
Voilà.
Oh là là.
Je vous connais, Jean-Claude.
Allez, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat dans Punchline sur Europe 1.
On se retrouve
demain à 18h avec nos débatteurs. Et tout de suite, c'est Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1. Je vous laisse terminer le débat, les deux. Allez, bonne soirée.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.